Une nouvelle étape pour la proposition de loi organique pour le report des élections provinciales. Elle a été validée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Justice, les incendiaires de Plastinor en attente de la décision du tribunal. Ils étaient jugés ce matin. Audience à suivre également pour deux des évadés de Conné qui avaient commis des forfaits pendant leur cavale. 4 jours pour découvrir et approfondir le monde du numérique en entreprise. La Digital Week organisée par la CCI a débuté ce matin. En métropole, c'est parti pour l'examen du budget 2026. Plusieurs amendements socialistes sur la partie recettes ont été adoptés par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Les suites du vol de bijoux au Louvre, des voix de plus en plus nombreuses réclament la démission des responsables du musée. Et enfin, dans la page sport, vous entendrez Axel Raymond. Le Calédonien est rentré des championnats du monde de force athlétique en Afrique du Sud avec plusieurs médailles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme tous les mardis par le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François.
Un citoyen dans lequel vous parlerez cette semaine des incendies et des feux de forêt et des moyens mis à disposition de la DSCGR.
Oui, notamment cette cellule feux de forêt qui a été activée le 1er octobre dernier. Les dernières technologies y sont déployées pour aider les pompiers. Nous en parlerons dans ce magazine Citoyen avec notamment le capitaine Alexandre Rossignol. Il est officier référent du Centre opérationnel de gestion de crise et officier communication. Le lieutenant Karil Payandi, officier référent de la cellule feu de forêt, et Yannick Bin, qui est chef de l'unité des télépilotes de drones de la sécurité civile. Alors pour tout savoir de la lutte contre les feux de forêt, rendez-vous dans le magazine Citoyen à la fin de votre journal.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc adopté la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales. 23 amendements avaient été déposés, mais ils n'ont pas été adoptés, Elisabeth Noir.
On le sait, la loi organique a été adoptée la semaine dernière à une très large majorité par le Sénat et elle a été transmise à l'Assemblée nationale qui l'examinera mercredi en séance publique. C'est une procédure d'urgence qui a été demandée parce que le calendrier est très serré. La loi, on le rappelle, doit être promulguée avant le 2 novembre. Et cette nuit pour nous, la commission des lois s'est réunie pour examiner le texte. C'est le député LR Philippe Gosselin qui en est le rapporteur.
Il y a un intérêt général, c'est d'ailleurs ce que reconnaît le Conseil d'État, hein. Un intérêt général que je pourrais qualifier peut-être sans doute d'intérêt supérieur de la nation à reporter ces élections. Alors, je rappelle que la PPLO, elle a quand même été signée par 6 groupes sur 8 au Sénat et elle arrive non pas comme un cheveu sur la soupe, mais comme une volonté de donner du temps au temps.
Les représentants de tous les groupes politiques se sont exprimés lors de cette commission, ce qui permet de voir plus ou moins les positionnements des uns et des autres pour l'adoption ou non du texte. Au total, 23 amendements avaient été déposés, des amendements de retrait présentés par les opposants au report des élections provinciales. En l'occurrence, 6 émanaient d'Emmanuel Thibault pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. 14 avaient été déposés par Bastien Lachaud pour la France insoumise. Et 3 étaient défendus par le groupe écologiste. Les débats ont été plutôt animés. Le député Emmanuel Thibault a argumenté pour sa part sur le fait que Bougival n'est qu'un projet d'accord et qu'il ne fait pas consensus. Et il a plaidé en faveur de l'organisation des élections dès le mois de novembre.
Aujourd'hui, vous nous demandez de statuer sur le report des élections provinciales pour permettre la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet 2025. Moi, je suis désolé. Nous, on n'a pas signé un accord. On a signé un projet d'accord. Le jour où on a signé, le ministre d'État nous a dit 2 choses. Présenter aux structures qui doivent faire le retour. Et c'est sur cette base-là qu'on poursuit les discussions. Deuxième chose, l'analyse par les experts et les juristes pour évaluer la cohérence constitutionnelle et juridique du document. L'accord définitif devant être ratifié à Nouméa le mois suivant. C'est qui dit la vérité? C'est qui manque à sa parole? Le consensus, c'est une valeur qui nous tient au cœur quand on est un océanien. Alors je ne sais pas si ça a du sens ici, puisqu'on privilégie la démocratie. Nous, aujourd'hui, on dit si vous voulez aller dans le sens de la démocratie, faites les élections. Vous allez conforter l'assise de ceux qui vont être assis à la table.
Et lors de ce débat, les députés favorables au rejet du projet de loi ont tous justifié leur position par l'absence de consensus en Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Bougival. Le député Nicolas Mesdorf, qui participait à cette commission, leur a répondu.
Quand j'entends qu'on me dit qu'il n'y a pas de consensus sur l'accord, il y a encore moins de consensus pour aller aux élections. Puisque 80% des groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont contre le fait d'aller aux élections maintenant. Parce que 80% des groupes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie veulent poursuivre les négociations sur l'accord de Bougival. Donc l'accord de Bougival et la poursuite des négociations est soutenu par tous les groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, y compris des indépendantistes, sauf l'UC. C'est soutenu par l'État et c'est soutenu à l'international par le président du groupe mélanésien Forêt de Lance, qui est de Fidji. Donc moi, je veux bien qu'ils font un consensus et on est d'accord avec ça. Mais attention, le consensus, c'est pas tout le monde contre le reste. Là, aujourd'hui, ça ressemble, pardon de le dire ainsi, mais il ne faut pas que la gauche et l'UCFLNKS prennent en otage toute la nouvelle... Non, mais vous parlez de passage en force. Je parle de prise en otage, pardon. Vous êtes minoritaire à vouloir les élections maintenant. C'est une réalité. Donc respectez au moins le choix politique des Calédoniens de reporter ces élections pour pouvoir négocier.
L'intervention du député Nicolas Mézoff. Et puis autre sujet de débat, le soutien ou non du groupe du fer de lance mélanésien à l'accord de Bougival. Un argument mis en avant par le rapporteur Philippe Gosselin et contesté par le député Emmanuel Tchibaou.
Juste une petite dernière correction. Le groupement fer de lance Vanuatu ne s'est pas prononcé hein, pour le Bougival, ni le forum, ni la 4e commission sur la décolonisation. Donc c'est juste... Un rappel, il ne faut pas non plus trop tourner les choses comme si on est les mauvais coucheurs de l'histoire.
Et le rapporteur Philippe Gosselin a répondu aux députés calédoniens en citant les déclarations du groupe du fer de lance mélanésien.
Le groupe prend note et est encouragé par la signature de la feuille de route pour la Nouvelle-Calédonie, l'accord de Bougival, et reconnaît les efforts collectifs des Calédoniens et du gouvernement français pour trouver une solution politique durable après les événements tragiques de l'an dernier. Vous verrez ça comme le verre à moitié vide, sans doute, si vous voulez. Moi, je le vois comme un verre à moitié plein, et je le vois de la part du groupe Fer de Lance. C'est pas rien, c'est le groupe Fer de Lance. Je vous rappelle qui, historiquement, est quand même très fortement marqué, et c'est son droit en faveur de Kanaki et des Kanaks, eh bien, reconnaît qu'il y a non seulement des efforts, mais une forme d'encouragement. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour moi, ça a de l'importance, beaucoup d'importance, par rapport à l'environnement dans le Pacifique de la Nouvelle-Calédonie, de voir que le groupe Fer de Lance apporte, d'une certaine façon, et je maintiens ce que j'ai dit, la caution à l'accord.
Voilà pour ces échanges de la Commission des lois qui s'est déroulée cette nuit pour nous à l'Assemblée nationale. Le texte va maintenant être examiné en séance publique mercredi, le 22 octobre. Encore une fois, ce sera dans la nuit pour nous. Et on saura donc jeudi matin si la loi est adoptée et si elle peut être promulguée avant le 2 novembre pour permettre le report des élections provinciales. Faute de quoi, rappelons-le, le scrutin devrait être organisé avant la fin du mois de novembre et avec un corps électoral gelé. Et on sait d'ores et déjà que le scrutin sera serré.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Pensez-vous qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour adopter cette loi organique qui vise à reporter les élections provinciales? Si vous pensez qu'il y aura une majorité, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 82% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent l'initiative des fils de Nicolas Sarkozy qui invitent le soutien de leur père à manifester leur amitié mardi, le jour de l'incarcération de l'ancien président de la République à la prison de la Santé. Ils sont 18% à dire qu'ils n'approuvent pas cette initiative. Une page justice pour poursuivre ce journal. Plusieurs affaires étaient en effet jugées ce matin au tribunal correctionnel de Nouméa où l'on retrouve Léana Colombo. La première de ces affaires, Léana, concernait les incendiaires de Plastinor.
Oui, la société De Point Bout, spécialisée dans la vente de tuyaux et autres matériels pour l'arrosage et l'irrigation, avait été la proie des flammes le 20 juillet dernier. Deux individus ont été condamnés à 30 mois d'emprisonnement avec 10 mois de prison ferme à effectuer sous bracelet électronique et 20 mois de sursis probatoire. L'un a été reconnu coupable d'incendie, l'autre de complicité de dégradation et de vol. Les deux jeunes hommes, âgés de 19 ans et originaires de Pointe-Bout, étaient dans un état d'alcoolisation avancé au moment des faits. Selon le compte-rendu de l'enquête, ils auraient passé la journée à boire avec un groupe d'amis, au moins 5-6 bouteilles, a rappelé la présidente du tribunal. Une consommation d'alcool excessive, au point que les mises en cause ne se souvenaient même plus être entrées par effraction dans la société, l'avoir dégradé et volé du matériel avant de l'incendier. C'est tout d'abord grâce à la vidéosurveillance que ces jeunes ont été interpellés, puis des témoignages et enfin la vidéo filmée par l'un des deux auteurs au moment des faits, puis postée sur les réseaux sociaux. Un acte purement gratuit, résume la présidente devant les individus qui ont exprimé des regrets quant à leurs actes. Le gérant de Plastinor, représenté par son avocat Maître Reuter, s'est dit découragé et en colère. Découragé car sa société qui existe depuis 2001 et qui employait 10 personnes est désormais réduite en cendres. Et puis en colère parce que le préjudice est estimé à 620 millions de francs et que son activité est toujours à l'arrêt. En plus de leur condamnation, les deux individus sont soumis à une obligation de soins d'addictologie au cannabis et à l'alcool.
Et deux autres affaires qui ont beaucoup fait parler au moment des faits sont présentées également ce matin. Après leur condamnation pour s'être échappé de prison, deux des évadés de Connay sont de nouveau faux devant la justice. Pour l'un d'entre eux, tout d'abord, il doit répondre de l'agression d'un enfant à Farino et les deux hommes ensuite répondront du casse de la station mobile de Moindoulé, Anna.
Effectivement, et l'audience vient tout juste de débuter. Les deux individus condamnés pour leur évasion purgent actuellement leur peine au camp Est et ils sont en effet de nouveau présentés au parquet pour tout d'abord une affaire qui ne concerne qu'un des deux prévenus, celle de l'agression d'un enfant à Farino. Durant sa fuite, l'auteur des faits avait tenté de trouver une voiture. C'est ainsi qu'il s'est introduit dans la maison de cette famille. Un enfant de 11 ans était dans la cuisine à ce moment-là et il a surpris l'auteur des faits qu'il aurait alors agressé puis dérober son téléphone portable. L'enfant est ressorti choqué de cette agression, mais la personne ne reconnaît pas les faits, bien que la victime l'ait formellement reconnu. Notez que la famille de la victime est présente pour cette audience, la victime de 11 ans qui devrait bientôt témoigner. Et seconde affaire, jugée un peu plus tard, la participation des deux individus au casse contre la station-service de Moindou. Dans la nuit du 2 juillet dernier, un pick-up avait délibérément foncé dans le volet roulant de l'établissement. Identifiés grâce à la vidéosurveillance, plusieurs individus, dont justement ces deux évadés de Koné, avaient été vus en train de se servir dans les rayons et charger la benne du véhicule. La caisse, des cigarettes, des produits alimentaires et automobiles avaient alors été dérobés. Les autres auteurs du vol sont déjà passés devant la justice. Le dernier en date avait été présenté au parquet début août. Il avait été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec exécution immédiate. Depuis le tribunal correctionnel de Nouméa, Léana Colombo, RRD.
Merci Léana. Restons au chapitre des faits divers avec quatre véhicules incendiés la nuit dernière au Faubourg Blanchot, deux voiturettes, une citadine et un fourgon de livraison de la boulangerie L'Atelier Gourmand. Il était environ 23h lorsque les pompiers sont intervenus pour lutter contre ces incendies survenus à quelques minutes d'intervalle dans le même secteur géographique. Romain Santet, directeur d'exploitation des boulangeries du groupe Atelier Gourmand.
C'est encore un coup dur de plus pour l'entreprise, pour nos équipes, car on a déjà été victime de l'incendie de toute notre flotte de véhicules, plus notre centrale de production qui était située à Normandie. Et donc beaucoup de pertes d'emplois suite à cet événement. On a durement essayé de réinvestir dans un camion neuf il y a 6 mois pour pouvoir maintenir et continuer l'exploitation. Là, aujourd'hui, on a passé une nuit un peu chaotique. J'ai appris cette nuit à 23h que notre camion était en flammes devant notre boulangerie au Faubourg Blanchot. Donc très compliqué de se relever de ça. On va voir comment on peut rebondir. En tout cas, on va continuer l'activité. C'est compliqué parce qu'on a eu un peu de mal à se remettre debout, recréer des nouveaux laboratoires de production à l'arrière de notre boulangerie du Faubourg Blanchot. Financièrement parlant, c'est très compliqué. On essaye de se relever de tout ça, mais c'est compliqué. On en prend un coup au moral, mais on va essayer de garder foi et rebondir de tout ça.
Des plaintes ont été déposées. L'enquête se poursuit alors que l'auteur présumé des faits a été arrêté peu de temps. Il a reconnu les faits devant les enquêteurs. Un camion s'est renversé sur la Save Express à hauteur de Savannah en direction de Nouméa. Il n'y a pas de blessés. L'opération de relevage est en cours. La circulation ne se fait que sur une seule voie. Enfin, le voilier échoué à Belep a pu se déséchouer tout seul. Grâce à la pleine mer de cette nuit, il a pu reprendre sa route en direction de Koumac. Il est remorqué depuis 6 heures afin d'arriver à bon port, car ce monocoque de 18 mètres souffre d'une voie d'eau maîtrisée. Dimanche, le Enjoy, ce navire de plongée sous-marine, s'est échoué sur le récif. 11 passagers ont passé la nuit à bord. Hier, 7 d'entre eux ont été élitreillés. Les 4 membres d'équipage restants ont donc pu reprendre la mer la nuit dernière. Et puis notez qu'Enercal communique sur la coupure de courant d'hier. L'entreprise indique qu'un arbre est tombé sur le réseau de distribution à Dumbéanor. Les protections automatiques n'ont pas pu isoler le défaut et le poste de transformation de Ducos a été mis hors tension. Cette coupure a eu lieu à 17h39 très exactement et les postes ont été réalimentés 3 minutes plus tard. Les clients ont ainsi retrouvé le courant à 17h55, hormis 92 foyers de Dumbéanor. Les équipes techniques sont toujours sur place et cette intervention devrait durer jusqu'à 14h. Il est 11h45, une première pause dans ce journal. Dans un instant, on voit ce qui fait le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Jusqu'au 2 novembre, jouez à la jauge des cadeaux avec Eguise. Les essentiels pour bébé sont à remporter. Une chambre toute équipée, les indispensables pour la cuisine et le bain. Et même 6 mois de couche Eguise Essentials. Chaque participation fait grimper la jauge. Et à chaque palier franchi, un nouveau lot se débloque. Alors n'attendez plus, chaque participation compte. Plus d'informations sur le Facebook. Sac et bon NC, règlement déposé chez Maître Citrita.
Réartec, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, paroi de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartec, la transparence au service de vos projets.
Grande ouverture de Relook Store à Ducos. Mode pour toute la famille, hommes, femmes, enfants et bébés. Nouveau stock chaque semaine, en face de gâchés. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h. Relook Store, habillez-vous malin, dépensez moins.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Prévenir le risque suicidaire en Nouvelle-Calédonie, c'est l'objectif que s'est fixé Jean-Luc Douillard, le cofondateur de l'APESA, l'aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë. Pour son 4e déplacement sur le territoire, il donne plusieurs conférences, notamment pour former des sentinelles, Nicolas Legrand.
Oui, il s'agit de chefs d'entreprise, par exemple, qui ont pour objectif de déceler les souffrances chez leurs collègues afin de les aiguiller vers un psychologue. Ils pourront ensuite avoir 5 rendez-vous pour traiter leurs problèmes. Jean-Luc Douillard était notre invité ce matin pour en parler sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.
Oui, c'est très évident, les émeutes ont accéléré sans doute beaucoup de fragilité, d'abord de ceux qui, dans l'économie, étaient déjà un peu fragiles, mais aussi psychologiquement, c'est très dur, le contexte actuel, économique et sociétal. Donc oui, ça a accentué beaucoup les difficultés. Puis les chefs d'entreprise s'engagent beaucoup pour les autres. Ils ont beaucoup de responsabilités et quand l'entreprise commence à être en difficulté, ils sont très très vite très touchés et effectivement, le risque suicidaire, il est majoré par cette responsabilité collective et en même temps des hommes et des femmes qui ont de temps en temps le sentiment que quand on n'est pas en capacité de tenir son projet, il vaut peut-être mieux disparaître. Oui. Donc c'est une vraie réalité, le risque suicidaire des artisans et des commerçants ici en Nouvelle-Calédonie.
Jean-Luc Douillard est aussi spécialiste de la prévention du risque suicidaire chez les adolescents. Il souhaite mettre en place un dispositif qu'il expérimente dans des départements en métropole. Pour Jean-Luc Douillard, tous les collégiens devraient voir un psychologue une fois par an. Parler de soi quand tout va bien peut aider les adolescents à se confier en cas de difficultés psychologiques. Et il en parlera demain soir à l'UNC lors d'une conférence.
C'est de pouvoir avoir très rapidement un espace de confession chez un adolescent. Mais quand on prend l'habitude d'aller parler de soi chez un professionnel quand tout va bien, je suis sûr qu'on s'en sert beaucoup mieux quand on commence à avoir des difficultés. Parce qu'ils en traversent tous, hein, la rupture amoureuse, le conflit, le harcèlement, la difficulté d'un projet qui ne fonctionne pas. On a tendance, quand un adolescent va pas très bien, à essayer de banaliser sa souffrance en lui disant « t'inquiète pas, ça va passer, on va faire un projet où tu vas retomber amoureux ». Et en fait, tous ces petits verbatims de la part des proches, c'est presque pire pour un adolescent qui a besoin qu'on lui dise « ce que tu traverses est très difficile, que ce soit la rupture amoureuse, le harcèlement, on peut pas juste lui dire « t'inquiète pas, ça va passer ». On doit aller un peu plus loin en lui disant « mais ce que tu traverses est très dur, tu vas mal dormir pendant très longtemps, tu vas peut-être avoir mal au ventre, pas envie d'aller au lycée, parfois avoir des idées suicidaires ou des idées noires, mais voilà, moi je suis là ». On peut en parler et je voudrais que les adultes de proximité soient plus tranquilles avec ça pour permettre à des adolescents de pouvoir l'exprimer beaucoup plus facilement.
Jean-Luc Douillard qui donnera donc une conférence demain soir à 18h à l'UNC à Nouville au sujet du risque du suicide chez les adolescents. Une interview à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc.
Quels sont les outils numériques qui peuvent améliorer la performance des entreprises calédoniennes ? Aujourd'hui, le digital est quasiment incontournable pour le développement des sociétés. Et pourtant, de nombreux outils sont encore méconnus ou sous-exploités. La Chambre de commerce et d'industrie souhaite accompagner les entreprises calédoniennes dans leur transition numérique en organisant la première édition de la Digital Week qui a débuté ce matin. Camille Denebourg est responsable marketing à la CCI.
L'idée, c'est de sensibiliser en fait le plus grand nombre à l'intérêt du digital, comment ça peut aider les entreprises dans leur quotidien, en fait, leur faire gagner en efficience, en performance. Donc c'est vraiment un objectif de sensibilisation, de vulgarisation du sujet. Là aujourd'hui, par exemple, on est autour de la data, cybersécurité, stockage de données, mais aussi tout ce qui est communication marketing digital. Et demain, ça va plutôt être lié autour des logiciels de gestion, innovation, intelligence artificielle. Et après, on a des événements qui viennent cadencer toute la semaine. Une matinale et un atelier tous les jours. Et jeudi soir, on aura un rendez-vous de l'écho sur le thème de la cybersécurité. Donc voilà, l'idée, c'est de faire venir le plus grand nombre pour qu'ils puissent venir à la rencontre de l'écosystème du numérique.
Simplifier, automatiser, performer le digital au service des entreprises calédoniennes, c'est la thématique du premier atelier qui s'est tenu ce matin, auquel l'ont pu assister gratuitement plusieurs chefs d'entreprise.
Je voulais avoir des informations sur les outils qui seraient adaptés pour la création de ma future entreprise. Des outils numériques, quel était l'avantage de l'automatisation au niveau gain de temps et au niveau de la perte de données.
Quand on débute, on fait énormément par soi-même. Et j'utilise un petit peu l'IA, mais je pense de manière assez basique, comme tout le monde. et j'ai besoin de le développer, notamment d'automatiser les tâches.
Après, c'est toujours intéressant, notamment au niveau des questions-réponses à la fin, d'entendre d'autres problématiques. Sur un outil, je ne pense pas, par exemple, à la sécurité de telles données que j'ai pu lui fournir. Et en fait, le fait qu'une autre personne pose la question me fait me remettre en question et repenser ma façon d'utiliser l'outil.
Et ce programme complet de la Digital Week est à retrouver sur le site internet de la CCI. Une nouvelle opération solidaire a été lancée ce matin par la Société Saint-Vincent-de-Paul. Une action troc-canette organisée en partenariat avec la Société de recyclage des déchets Recycal. Elle permet aux personnes les plus démunies de devenir acteurs de leur alimentation. Depuis 8 heures ce matin au Dock de Normandie, une carte de fidélité est remise aux participants pour chaque kilo de canette qu'ils ramènent. Un kilo de canette rapporte 100 francs et au bout de 1000 francs, ces personnes reçoivent un bon alimentaire à dépenser dans une des épiceries solidaires de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Écoutez Elisabeth Gau, la présidente de l'association.
Ce matin, on est très contents. Il y a pas mal de gens déjà qui sont venus et des personnes démunies pour avoir la petite carte et des personnes solidaires qui ont amené, je remercie d'ailleurs le Rotary, les petites sœurs de l'eau vive. Il y a des associations aussi qui sont venues, des associations de lycéens pour avoir des cartes pour pouvoir s'acheter à manger également. Donc je pense que vraiment tout le monde peut être concerné par cette opération, les plus pauvres comme les plus démunis, comme les plus riches, je vais dire, qui sont solidaires à ce moment-là. L'objectif sur cette action, c'est du social, c'est-à-dire rendre les gens acteurs de leur alimentation avec dignité. Eh ben, on se dit que au lieu de faire de l'assistanat, eh bien, il y a cette partie là où ils contribuent les gens aussi à avoir des bons alimentaires parce qu'ils font une action environnementale. Les sols sont beaucoup jonchés de canettes et tout, donc c'est une éducation aussi pour les gens. Ne jetez pas vos canettes n'importe où, apportez-les, vous aurez un bon alimentaire.
Et cette opération Troc-Canette organisée par la Société Saint-Vincent-de-Paul se déroule du mardi au vendredi de 8h à midi au Dock de Normandie. L'actualité dans la région avec une tournée diplomatique, celle que vient d'entamer la vice-ministre des Affaires étrangères d'Israël dans le Pacifique. Sharen Haskel va multiplier les étapes. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ce voyage diplomatique de Sharen Haskel, qui a débuté aux Philippines, se terminera par la Nouvelle-Zélande. Des escales sont toutefois prévues en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a ouvert une ambassade à Jérusalem en 2023, et aux îles Fidji, qui y a inauguré la sienne début septembre. Les pays du Pacifique sont de véritables partenaires de l'État d'Israël, a expliqué Sharen Haskel, qui fut un temps citoyenne australienne. Je suis fier de participer à la première visite officielle d'un représentant du gouvernement israélien en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Fidji, deux pays amis indéfectibles d'Israël, a-t-elle poursuivi, avant de préciser que les entretiens qu'elle aura avec le premier ministre papou, James Marape, et son homologue fidjien, Sitiveni Rambuka, viseront à promouvoir des initiatives communes dans les domaines du développement, de l'innovation et de l'agriculture. Ce voyage est surtout destiné à approfondir notre amitié, a-t-elle insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h et bientôt 54 minutes. Dans un instant, l'actualité en métropole. Nous parlerons de la préparation du budget, de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, mais aussi du vol des bijoux au Louvre.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Du 20 au 26 octobre, c'est les jours complètement waouh dans vos magasins Auchan Auteuil et Auchan Kefferi. Avec votre carte de fidélité, profitez chaque jour de 5% de cagnottage supplémentaire sur tous nos produits de marque Auchan, Cosmia ou Kiliv. Alimentaire, maison ou beauté, 7 jours, 5% en plus sur votre cagnotte. Waouh ! Ça vaut vraiment le coup.
Ils étaient 2000 il y a 20 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que 400 dugongs en Nouvelle-Calédonie. Braconnage, collision avec les bateaux, prise dans les filets, destruction des herbiers. Nos dugongs disparaissent, lentement, sous nos yeux. Il n'est pas trop tard pour les sauver, mais il faut agir maintenant. Si vous voyez un dugong mort ou échoué, appelez le 16. Et si vous êtes témoin d'un acte de braconnage, appelez le 17. Ceci est un message du plan d'action dugong piloté par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, financé par l'État par le biais du Fonds vert et du programme France Nation Verte.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Hier, la commission des finances de l'Assemblée nationale a ouvert l'examen du budget 2026, en commençant par la partie recettes. Les députés ont d'ores et déjà rejeté la taxe Zoukman, qui sera toutefois discutée une nouvelle fois dans l'hémicycle, où les élus examineront la copie initiale du texte du gouvernement. D'autres amendements significatifs ont été adoptés par la commission et ils vont accroître la pression fiscale. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Dès ce matin, la commission des finances aurait pu se contenter de voter la prolongation pour 2026 de la surtaxe sur les plus hauts revenus, mais les députés ont décidé de pérenniser le dispositif jusqu'à ce que le déficit public repasse sous les 3% du PIB, ce qui n'est pas près d'arriver. De quoi excéder Benoît Perrin, président de Contribuables Associés.
On est déjà tellement taxé que normalement les parlementaires devraient en fait se concentrer sur justement la partie économie. Parce que le mot économie, c'est un mot qui a disparu quasiment de la langue française depuis quelques jours. Et donc on aimerait tous que les politiques ne passent pas leur temps à inventer des mesures fiscales qui vont vite ressembler au musée des horreurs.
Ce n'est que le début. La commission des finances va se prononcer sur la hausse de la flat tax, le prélèvement unique sur les revenus du capital, ou encore la création d'un ISF climatique pour taxer les investissements et comportements anti-écologiques des plus fortunés. Plusieurs amendements visent à raboter les avantages fiscaux des entreprises et des particuliers. Tout ça alors que le taux de prélèvement obligatoire s'élève déjà à près de 44% du PIB, ce qui fait de la France l'un des pays les plus taxés dans le monde.
C'est la nuit prochaine pour nous que Nicolas Sarkozy doit se rendre à la prison de la santé. Il va commencer à purger la peine de prison avec exécution provisoire après sa condamnation dans l'affaire du financement de la campagne de 2017 que beaucoup jugent excessive puisque le tribunal n'a reconnu que l'infraction d'association de malfaiteurs mais aucun enrichissement personnel ni d'utilisation d'argent douteux dans cette campagne. Un ancien chef de l'État en prison, c'est une première. Certains s'en réjouissent et ils ont tort, estime l'un de ses anciens conseillers de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud.
La plupart des gens qui éprouvent cette joie mauvaise ont en fait le sentiment qu'ils iront beaucoup mieux à chaque fois qu'un puissant tombera à terre. Voilà. Or, ils n'iront pas forcément beaucoup mieux à chaque fois qu'un puissant tombera à terre. Ça risque même d'être l'inverse. On a oublié les leçons de l'histoire, on a oublié la Révolution française. On a oublié que parfois, quand le puissant qui tombe, ça n'est jamais que le premier d'une longue série. Donc moi, je crois qu'il faut, il y a derrière aussi cette joie mauvaise une haine de sa propre nation. Puisque là, il ne s'agit pas de n'importe qui. Encore une fois, il s'agit d'un ancien président de la République. Et il y a une haine de sa propre nation, qui est une forme de haine de soi. Simplement, quand une nation se remplit de haine de soi, elle n'est plus capable de résister à tout ce qui menace de la faire disparaître. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu de cette histoire. C'est l'enjeu de ce procès. Ce procès, c'est une sorte de meurtre symbolique. C'est le meurtre symbolique de quelqu'un qui a été président, ça n'est pas par hasard.
Des propos recueillis par nos confrères de CNews. Les responsables du musée du Louvre doivent-ils démissionner ? Des voix de plus en plus nombreuses le réclament après le vol de bijoux d'hier dans l'une des salles du musée. 8 bijoux d'une valeur inestimable dérobés en pleine journée et en 7 minutes par 4 malfaiteurs qui restent introuvables. Écoutez la réaction d'Éric Zemmour.
Dans d'autres pays et dans d'autres temps, les responsables, puisque ce mot dire, auraient au moins démissionné. Je ne vous dis pas que, comme dans le Japon ancien, il se fasse harakiri. Sérieusement, je pense que la moindre des choses, c'est qu'il devrait y avoir des dirigeants, peut-être même la ministre de la Culture, qui devraient démissionner. Je pense que ça serait une question de dignité, mais j'ai l'impression que dans notre pays, ce mot ne veut plus rien dire.
La présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, doit être auditionnée mercredi par la commission culture du Sénat. Les règles de sécurité seront bien sûr évoquées, alors que plusieurs alertes avaient déjà été lancées. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Un pré-rapport de la Cour des comptes pointe en effet un retard persistant pris par le musée dans la protection de ses œuvres. Sur les 5 dernières années, par exemple, seules 138 caméras ont été installées dans le musée. Insuffisant puisqu'un tiers seulement des salles du Louvre disposent aujourd'hui d'au moins une de ces caméras. Selon la Cour des comptes, les dispositifs de sécurité installés récemment l'ont principalement été dans les expositions temporaires qui accueillent des œuvres prêtées par d'autres pays, au détriment donc des salles abritant les collections permanentes. Autre problème, problèmes, le manque d'agents de sécurité. 200 emplois ont été supprimés en 15 ans, alors que la fréquentation, elle, a été multipliée par 1,5. Un temps mis en cause, les alarmes de sécurité ont sonné dans le PC Sécurité hier, selon la ministre de la Culture, Rachida Dati. Précision enfin sur les fenêtres par lesquelles sont entrés les malfrats. Hier, elles ne sont pas équipées de barreaux pour une raison simple, tout simplement parce que le Louvre est classé monument historique, ce qui empêche toute modification qui porterait atteinte à sa mise en valeur.
Il est midi, c'est la suite du journal. Dans un petit instant, nous parlerons sport avant de retrouver le magazine Citoyen. Tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chérie, tu peux ouvrir le congélateur s'il te plaît, j'ai ramené du sel.
Non, il y a plus de place.
Attends, comment ça, il y a plus de place? Mais c'est quoi tout ça?
Les 60 mini pains au raisin étaient à 3863 francs chez Cegel. Donc j'en ai profité.
Tu l'as dit aux enfants?
Non, pas encore, mais...
Non, dis rien du tout. On garde pour nous.
Voir conditions en magasin. Le 4, 186 rue Jacques Ekaoué. Faites vos courses autrement.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
En football, notez que le PSG jouera demain matin pour nous son troisième match de la première phase de Ligue des Champions. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse des Allemands du Bayer Leverkusen. Ils pourront compter sur le retour de blessure du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, mais aussi sur le retour de Marquinhos. Le sport côté calédonien et Axel Raymond est de retour sur le territoire. La semaine dernière, il a terminé sur le podium mondial de force athlétique en Afrique du Sud. Après avoir décroché le titre de vice-champion du monde en 2024, le calédonien a remporté cette fois-ci le bronze chez les Masters 1, moins de 93 kilos. Axel Raymond nous a confié qu'il se sentait le potentiel de faire encore mieux.
Ça reste une médaille, on l'apprend, mais un bilan très mitigé parce que les objectifs fixés donc, n'étaient pas présents. J'ai fait un très mauvais départ de championnat avec deux squats loupés sur des charges que je fais facilement à l'entraînement. Voilà, je sais quand même qu'il y a, pour moi, il y a quand même cette déception qui est présente. Les premiers qui m'ont félicité ont été ma famille et le comité territorial olympique et sportif. Ça fait plaisir. Et bien sûr, la Calédonie. Et je les remercie tous parce que, comme je l'ai dit, hein, cette médaille, elle est quand même pour moi, pour ma famille, mais aussi énormément pour nous, les Calédoniens, en fin de compte. C'est pour montrer que notre petite île, elle est présente. Même au niveau mondial, je vois dans les autres sports, on est aussi présent. C'est vraiment l'objectif, être en équipe de France, mais montrer que nous, Calédoniens, nous pouvons aussi arriver à toucher l'excellence.
Le licencié du Tagalogim a fait forte impression sur la scène internationale après avoir créé la surprise lors de ses mondiaux 2024 où il avait mené l'aventure par ses propres moyens. Il est désormais suivi de près par les instances nationales, mais il espère pouvoir poursuivre son projet malgré le manque de moyens. Il a pour objectif d'aller au championnat d'Europe.
Déjà rien que de savoir que au moins, la France et l'équipe nationale a un œil sur nous, les athlètes qui étions présents à Cape Town. C'est un plaisir. Les championnats d'Europe, je pense que ce sera une belle sélection. Après, ça reste encore flou, hein, parce qu'il faut encore ressortir de l'argent pour y aller. Réfléchir à monter un plan financier pour pouvoir repartir et espérer y arriver. Bon, après, il y a plusieurs sports aussi qui n'ont pas de finances. Mon cas n'est pas isolé, mais lorsque l'on me dit que je suis trop vieux pour être aidé financièrement, ben, on se demande, ben, ok, d'accord, pas de problème, mais à quoi ça sert d'être athlète calédonien ? Mieux vaut continuer à tirer pour l'équipe de France, puis tirer pour le peuple calédonien, et c'est tout. Championnat du monde, championnat de France, championnat d'Europe. À un moment donné, il faut aussi que l'on refasse un petit remix de tout ça, de se rendre compte de tous les masters quand même qui sont sur les circuits mondiaux, et peut-être se dire, il y a peut-être une chose à faire avec eux, il y a peut-être quelque chose à voir avec eux. Si vous voulez des médailles aux Jeux du Pacifique, comptez aussi sur les masters. Il faut aussi compter sur nous.
On retiendra qu'Axel Raymond a également décroché le titre de vice-champion du monde de développé couché en Afrique du Sud et que les prochains championnats d'Europe de force athlétique sont prévus en Finlande. C'est la fin de ce journal, il est midi 3. Infomag se poursuit avec le magazine Citoyen. Nicolas Legrand et ses invités s'intéressent cette semaine à la lutte contre les feux de forêt avec la direction de la sécurité civile.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.